De retour sur les ondes de Canal Sud 92.2. Alors c'est vrai que dans l'histoire occidentale, tout le monde n'a pas toujours été considéré comme pleinement humaine. Alors en quoi cette frontière a été socialement et historiquement construite ?
Cette frontière a été produite au fil de l'histoire par certaines catégories dominantes qui se sont érigées en modèle idéal et exclusif de l'humanité. Et elles ont renvoyé d'autres individus de l'autre côté de cette frontière, du côté de l'animalité, du côté de l'infériorité. Je parlais tout à l'heure de la population palestinienne, mais en fait, avec l'expansion coloniale, les groupes colonisés ont été classés en dehors de la frontière humaine. L'exemple qui revient assez souvent, c'est la controverse de Valladolid dans les années 1550, où pendant la conquête de la Biayala, s'est posé la question de l'asservissement des populations amérindiennes et s'il était juste d'asservir, d'esclavagiser ces populations ou pas. Donc il y a eu un débat, sans les populations concernées bien sûr, un débat entre un philosophe théologien et un moine dominicain. Et il y en a un qui trouvait que c'était naturel de considérer ces populations comme inférieures, proches de l'animal, incapable de civilisation, incapable de raison, etc. Et puis un autre qui défendait le fait que ces peuples autochtones avaient une âme, à condition en fait de se convertir au christianisme. Donc là, la condition pour accéder à l'humanité ici, c'était le fait d'être chrétien. Ce fut ensuite pareil avec les autres peuples, avec l'esclavage, etc. Et les savoirs scientifiques et philosophiques sont venus légitimer cette hiérarchie, l'anthropologie coloniale, la théorie des races, avec la dissection anatomique, la mesure des crânes, la mesure des os, la mesure du squelette, donc pour justifier le fait de mettre toute une population de l'autre côté de la frontière.
Mes chers frères, depuis que, par la grâce de Dieu, le royaume d'Espagne a découvert et conquis les Indes de l'Ouest, que certains appellent déjà le Nouveau Monde. Ces terres nouvelles ont des habitants qui ont été vaincus et soumis au nom du vrai Dieu. Cependant, depuis une trentaine d'années, des rumeurs se sont répandues en Europe, disant que les indigènes de Mexico et des îles de la Nouvelle-Espagne ont été très injustement maltraités par les conquérants espagnols. Aujourd'hui, le Saint-Père m'a envoyé jusqu'à vous avec une mission précise. Décider si ces indigènes sont des êtres humains achevés et véritables, des créatures de Dieu, nos frères, dans la descendance d'Adam, ou si, au contraire, comme on l'a soutenu, ils sont des êtres d'une catégorie distincte, voire même les sujets de l'empire du diable. À la fin de notre débat, la décision que je prendrai sera ipso facto confirmée par le Saint-Père et deviendra par conséquent irrévocable.
Donc cette frontière, elle est complètement arbitraire, comme tu l'as dit. Ça continue encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est toujours là dans des plateaux télé, dans les assemblées, dans les parlements, à se demander si certaines populations ont le droit de vivre, si certaines souffrances comptent, certaines comptent, d'autres ne comptent pas. Il y a l'exemple des mineurs isolés en France, où on continue de mesurer leurs os, etc., pour décider si elles ont droit à un toit, si elles ont droit à l'éducation, s'il ne faut pas les renvoyer chez elles, etc. Donc cette frontière, elle continue d'exister aujourd'hui.
Ouais, puis avec cette violence aussi très particulière d'être regroupé, en fait, d'être anonymisé. C'est un peu ce qu'on fait avec les animaux, entre autres. Ça reste un amalgame, un bloc homogène. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Pour moi, c'est une stratégie aussi, de toute façon.
Voir les groupes qu'on veut dominer comme, et les faire voir comme homogènes, ça permet de supprimer la singularité des individus. Du coup, par la même occasion, de justifier les traitements discriminatoires qu'on veut leur faire subir. On peut agir dessus notamment en facilitant la rencontre entre les différents groupes et en faisant en sorte que les personnes des groupes apprennent à se connaître, enfin à connaître les personnes des autres groupes, quoi. Il y a en fait un processus psychologique qui s'appelle la perception d'homogénéité exogroupe, qui fait qu'on perçoit automatiquement les individus d'un groupe dont on ne fait pas partie comme plus homogènes que les individus du groupe duquel on fait partie. On va avoir l'impression que les autres, ils sont tous pareils, ils sont comme ça, et du coup, on peut avoir des stéréotypes, des préjugés, et donc la discrimination qui en découle.
Oui, jusqu'à présent, la question de l'animalité concernait quelque chose qui relevait de la biologie, qui relevait de l'éthologie, qui relevait globalement du domaine de la science, avec des règles, des principes immuables tels que les sciences dures aiment à les postuler, à les respecter et à les perpétuer à travers le temps. À partir du moment où on tente de s'éloigner d'une perspective biologico-centré et qu'on s'intéresse un peu plus à ce qu'il en est du côté des idées, du côté des représentations, du côté de l'idéologie, et donc du côté du pouvoir et du politique, on se rend compte que cette catégorie animale, qui a son pendant, qui est la catégorie humain, fonctionne de telle manière qu'elle englobe parfois des êtres qui sont des êtres humains. Et ça, c'est quelque chose de profondément important, et ça m'a amené à peu employer au final cette expression d'animal ou d'humain qui est confondante, pour y préférer des expressions qui mettent davantage l'accent sur les questions de processus, sur les questions de transformation de statut social, sur les questions de déplacement en termes de position. Et ces deux termes sont les termes d'animaliser et d'humaniser. Et ceux qui sont animalisés ne sont pas que des êtres appartenant à ce qu'on appelle le domaine du vivant. Donc c'est une forme de perturbation, ou en tout cas de séisme autour de cette frontière.
Ouais, c'est la question de l'altérisation radicale, en fait. C'est on crée un groupe qui est extérieur, et ce groupe, c'est l'animal avec un grand A majuscule. Il y a Afko, qui est une activiste végane afro-américaine, qui dit qu'en fait, l'animal est une catégorie dans laquelle nous plaçons certains corps lorsque nous voulons justifier la violence à leur égard. Donc on crée cette catégorie-là, et on crée la frontière avec cette catégorie-là, et on va y placer toutes les personnes indésirables.
Ce que dit Afko, et qui est extrêmement important et qui s'inscrit dans cette grande tradition du véganisme noir, c'est qu'effectivement, cette catégorisation animale et cette catégorisation humain possèdent un caractère colonial, et elles possèdent un caractère colonial puisque la question du corps, la question de sa possession, la question de sa désubjectivation y est absolument centrale. Et ça fonde, ou en tout cas ça rappelle, que la catégorie animale et la catégorie humain, dans ce qu'elles peuvent avoir de plus figé, sont pleinement tributaires de la constitution coloniale, impériale, esclavagiste de l'Ouest. Et ça rappelle des choses qui ont à voir avec la lecture philosophique du monde. Et il me semble qu'il y a là tout un travail à mener de contre-philosophie, ou en tout cas de sociologie critique, pour faire valoir le caractère colonial de ces catégories-là, qui sont des catégories de domination.
Volontairement, le fait d'être un peu extrait de cette catégorie, en fait, ça permet parfois de pas ressentir de responsabilité morale. Et donc, que la domination devienne un peu socialement acceptable, puisqu'on n'est pas concerné, quoi. Et ça fonctionne pour tous les types de discrimination.
Il y a du coup des compétitions intergroupe, et du coup un groupe va chercher à dominer les autres, et après il y a encore d'autres processus psychologiques plus au niveau individuel qui vont se mettre en place et qui vont permettre de perpétuer tout ça, y compris de manière active, comme tu l'as dit, de se soulager individuellement et de penser à autre chose. Le principal processus psychologique qui fait ça, il s'appelle la dissonance cognitive, un conflit entre ses pensées et son comportement. Donc, par exemple, quelqu'un qui trouve que c'est pas sympa de tuer des bébés animaux et qui mange des animaux, il va avoir un conflit, il va se dire il y a un problème quelque part, et du coup après il y a différentes techniques de réduction de la dissonance cognitive. Ça peut être de changer son comportement pour le mettre en accord avec ses pensées, mais malheureusement c'est pas le plus fréquent.
Et c'est ce qu'on vous conseille, hein, par contre.
Ouais. Après aussi, il y a des choses du coup qui sont là à la croisée entre sexisme et spécisme, parce qu'il y a même des différences genrées de techniques de réduction de la dissonance cognitive qui sont utilisées. Donc, en gros, les hommes vont être beaucoup plus à l'aise avec le fait de tuer et de manger des animaux. Et donc ils vont plus dire bah oui c'est normal, ils sont faits pour ça, ils sont là pour nous, etc. Alors que les femmes vont être moins à l'aise avec ça et donc vont plus essayer de penser à autre chose pour réduire cette dissonance cognitive.
Kaoutar Archi, qui est une sociologue et écrivaine française dont les travaux portent sur les rapports entre littérature, pouvoir et domination, a mis en lumière la ressemblance structurelle de l'oppression. Notamment, les femmes et les animaux ont été considérés comme des corps disponibles, privés de nom, de statut, de sujet, de singularité. Ce parallèle permet de démontrer que le patriarcat et le spécisme ne sont pas simplement des formes de domination différentes, mais bien un système imbriqué, avec du contrôle, de l'exploitation, de la dépréciation symbolique et matérielle des corps d'autrui. Est-ce que pour vous, l'oppression fonctionne en rapprochant certains humains humaines de l'animal en fait, ou alors en éloignant l'animal du statut de sujet? Parce que justement, comme le souligne Kaoutar Archi, les femmes et les animaux furent privés du statut de sujet. L'animalisation sert à rendre la violence acceptable.
Bah, Kaoutar Archi, elle dit, si je ne me trompe pas, l'animalisation permet de supprimer la dimension criminelle du crime, en fait.
Ouais, c'est même exactement en fait, le but de l'animalisation. Quand certains dirigeants essayent d'animaliser une partie de la population dans les médias, on pense en l'occurrence à Gaza, c'est effectivement pour pouvoir faire ce qu'ils veulent et ne pas avoir trop de réactions.
Je dis toujours que le spécisme est absolument partout. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est apprendre à le percevoir. C'est apprendre à voir à quel point cette distinction entre qui sont les humains et qui sont les animaux concerne bien évidemment les espèces animales dans leur rapport à l'espèce Homo sapiens, mais concerne aussi la communauté Homo sapiens en son propre corps, en son propre cœur. Donc c'est la question du pouvoir qui est ici, à mon sens, vraiment centrale. Notre monde est vraiment constitué de processus constant, à la fois d'animalisation, l'animalisation des animaux, de laquelle dérive l'animalisation d'une partie des humains par d'autres humains, et des processus d'humanisation. Donc en fait, nous sommes tous d'une manière ou d'une autre, on regarde un certain nombre de paramètres, de coordonnées sociales, de propriétés sociales, distribuées avec une proximité ou au contraire avec une distance plus ou moins forte de ce pôle d'animalité que les féministes ont pendant très longtemps nommé le pôle de la nature, le monde naturel, la nature des femmes, etc. Et le monde qui serait au contraire celui de la culture, celui de la civilisation, celui de la rationalité, etc. Donc à partir du moment où on rattache les questions du spécisme et les violences que subissent les êtres distingués selon leur appartenance d'espèce avec une implication morale, on se rend compte très rapidement que l'animalité et l'animalisation, c'est un moyen, c'est une justification politique qui permet immédiatement de faire subir à des individus à peu près tout, c'est-à-dire à peu près tout le pire qu'on peut imaginer.
Et l'animalisation, en fait, c'est un phénomène aussi induit par le langage. Est-ce que vous pensez que la violence commence aussi par le langage, parce que les mots façonnent les perceptions et naturalisent les dominations?
Frantz Fanon, il disait que le langage du colon, quand il parle du colonisé, est un langage zoologique. Et que donc la violence, elle commence justement, comme tu dis, elle commence par le langage. Le langage classe les êtres et les hiérarchise. Le langage est un outil de pouvoir. Et le langage, il permet à la violence, comme on disait tout à l'heure, d'être justifiable. Le fait d'animaliser la personne, c'est on animalise aussi par les mots qu'on utilise. Et cela permet de rendre cette la domination acceptable.
On l'a vu, le langage, c'est un outil de domination culturelle. Par exemple, traiter les femmes de chiennes, c'est pas neutre. C'est évidemment une insulte double envers les femmes et les animaux. Et c'est un outil aussi pour instiller l'intériorisation de la domination. Pourquoi le vocabulaire de la viande et aussi celui de la sexualisation féminine se croisent-ils autant ?
En fait, dans les sociétés occidentales, il y a eu cette réduction-là de femmes, de personnes sexisées et d'animaux qui sont réduits à la chair, qui sont réduits à l'usage, à la fonction. Enfin, un ouvrage dont on peut parler qui est quand même capital sur cette question-là, c'est l'ouvrage de Carol Adams qui s'appelle « La politique sexuelle de la viande » qui a été écrit dans les années 1990, je crois. Et il montre bien le lien entre l'oppression des personnes sexisées et les animaux non humains. Elle aborde notamment cette question-là, Carol Adams, en analysant différentes publicités et puis en analysant différents slogans. Et elle dégage la notion du référent absent, c'est-à-dire que comment on va nommer ou comment on va montrer, mais l'être vivant qui est derrière ce qu'on montre ou ce qu'on nomme est effacé comme sujet et il n'existe que sous une forme abstraite, fragmentée, transformée. C'est comme ça qu'on va parler de steak, on va parler de côtelettes, de poitrine, de cuisses, plutôt que de parler de l'individu lui-même. Pareil pour la personne sexisée qui va réduire un corps dénué complètement de subjectivité. Et dans certaines publicités que Carol Adams analyse, par exemple pour les personnes sexisées, on ne verra qu'une partie du corps, la poitrine, les cuisses, pour renforcer l'idée que cette personne-là n'a qu'une valeur instrumentale. Dans ces publicités-là, les femmes, les personnes sexisées sont animalisées et les animaux sont féminisés, sont sexualisés. On va avoir des images de truies en bikini, de poulets en talons hauts, en rouge à lèvres, etc. Et à partir de là, elle a dégagé la notion de carnosexisme, c'est-à-dire comment le carnisme et le sexisme se rencontrent pour maintenir une structure de pouvoir patriarcale, sexiste et spécisme. Donc dans le carno-sexisme, on va avoir des personnes sexisées et des animaux qui sont objectifiés, des corps qui sont fragmentés, on va avoir que des morceaux de viande. Ces corps-là vont être présentés comme sexuellement disponibles. C'est-à-dire que les animaux et les personnes sexisées vont toujours apparaître comme consentantes, comme voulant elles-mêmes être consommées.
Ouais, c'est un peu la logique qu'on retrouve dans la pornographie aussi, où les corps deviennent disponibles, morcelés, consommables pour le spectateur masculin. La culture pop endosse aussi une responsabilité dans l'érotisation de la domination. Tu parlais du consentement contraint, très souvent véhiculé en fait, et qui crée aussi, je trouve, tout un imaginaire de disponibilité. Le carnosexisme, si vous pensez qu'on peut le retrouver dans d'autres domaines?
Je sais pas. Enfin, t'as parlé de la pornographie, par exemple. Ça, dans la pornographie, on va trouver de la même façon une fragmentation des corps, des plans qui sont posés uniquement sur certaines parties du corps. Les recherches dans les moteurs de recherche d'un site pornographique, on va avoir une recherche par, pareil, ça peut être partie du corps, enfin gros sein ou des choses comme ça. Il va y avoir un vocabulaire aussi de consommation fraîche, à consommer, à dévorer. On va retrouver en fait les mêmes structures à la fois langagières et les mêmes structures visuelles.
I think there's two ways we understand it.
Je pense qu'il y a deux approches. Tout d'abord, la pornographie est un comportement addictif, tout comme la consommation carnée ou de produits laitiers ou d'œufs. Les gens ne savent pas comment en sortir. Mais la pornographie et la consommation d'aliments d'origine animale part du principe que les êtres consommés soit ont donné leur accord ou sont si inférieurs, leur statut est si inférieur que leur consentement ne compte pas.
Les steaks Trump sont de loin le bœuf le plus savoureux et le plus goûteux que vous ayez jamais mangé. Il s'agit vraiment d'une catégorie à part. Les steaks Trump sont des steaks 5 étoiles de qualité gastronomique qui appartiennent à une catégorie très très sélective de restaurants et sont certifiés Angus Beef Prime. Il n'y a rien de mieux que cela parmi tout le bœuf produit en Amérique. Moins de 1% d'entre eux entrent dans cette catégorie. C'est le meilleur du meilleur.
He handed out
meat sandwiches in 2016.
Il a distribué en 2016 des sandwichs à la viande pendant sa première campagne. Après toutes les primaires, les gens pouvaient avoir leur sandwich à la viande. Je voulais souligner que les suprémacistes blancs aux États-Unis, après l'élection de Barack Obama, ont fait un lien entre la suprématie blanche et la consommation carnée. Je pense que c'est là-dedans que puisait Trump, et je pense que c'est toujours à l'œuvre. Les personnes contre les véganes doivent en faire une pathologie, et si vous vous penchez sur les pathologies de la consommation carnée, finalement, là, vous avez des gens qui mangent des cadavres ou le résultat de la lactation d'une vache, et ça ne leur pose pas de problème, alors que c'est un comportement pathologique, surtout au vu de la crise environnementale actuelle. Trump ne va pas nous aider à résoudre cette crise environnementale, mais les véganes, oui.
Les bonnes idées, Maître Coq sait toujours où les trouver.
Dans le pub, on essaie de faire croire que du coup les animaux sont consentants d'être exploités. Et donc on facilite en fait cette réduction de la dissonance cognitive, et donc on facilite le non-changement comportemental et de consommation, en l'occurrence, pour les gens.
Et ça, vraiment, Carole Adams, elle analyse tellement de publicité. Elle parlait d'un resto à Chicago où, en fait, le burger que tu choisis, y a un burger qui s'appelle Bonnet Double D. Enfin, il y a tout le temps cette association qui est faite et qui s'intègre dans les esprits, dans un but d'instrumentalisation, de domination et d'asservissement, quoi.
Ouais, grave. Et ça, vraiment, ça appauvrit tout un imaginaire aussi autour de la sexualité, je trouve.
Dis plein au cul, mais c'est toute démenteuse. Des rappeurs sexistes choqués par des rappeuses. Est-ce que moi ça passera si je dis que je t'apprécie qu'à moitié nu en train de passer la tondeuse? T'as peur de moi? Comme Marine des migrants. Joue l'homme mûr parce que tu pèses tes aliments. Ta table de nuit, c'est un carton de déménagement depuis 10 ans. Je m'excuserai pas d'être bruyante. Je m'excuserai pas d'être brillante. Je préférerais qu'ils fassent semblant de pas nous voir comme la calvitie. Ils font semblant de pas nous croire comme féminicide. Ça devient gravissime.
Je mettrai pas les formes, je les porte. Juste en dessous de la taille de mon short. Faudrait que je me taise et je supporte. Des trop silencieuses en sont mortes. Est-ce que t'as déjà eu peur pour ta vie? Je montrerai les crocs face au fusil.
Je suis la louve, la mère, la patronne, la baronne, la chère. Le tapis rouge, la reine, l'impératrice, la doyenne. Je suis la louve, la mère, la patronne, la baronne, la chère. Je suis la lionne, la reine, la fondatrice, le calice.
Mes rappeurs préférés sont tous accusés de viol. Du coup de qui je m'inspire, y'a de la cruauté dès la cour de l'école. Là où c'est censé nous instruire. Déjà trop vieille pour DiCaprio, mais j'ai pas la trentaine. Mais c'est quand même moi le problème. Soit la taronne, soit pucelle.
Petite, j'avais peur de la pénombre qu'on pointait le soir. J'imaginais des monstres qui sortaient du placard. Maintenant j'ai peur du noir quand je rentre un peu tard. Mais c'est pas quand je croise une femme que je change de trottoir. Ah, tu peux plus nous draguer?
Dommage.
Elles font chier les chiennes à rester sur leur garde. Et pourquoi tu crois qu'on mord et qu'on fait carnage? Et pourtant c'est pas nous les sauvages.
Je mettrai pas les formes, je les porte. Juste en dessous de la taille de mon short. Faudrait que je me taise et je supporte. De trop silencieuses en sont mortes. Est-ce que t'as déjà eu peur pour ta vie? Je montrerai les crocs face au fusil.
Je suis la louve, la mère, la patronne, la baronne, la chère. Le tapis rouge, la reine, l'impératrice, la doyenne. Je suis la louve, la mère, la patronne, la baronne, la chère. Je suis la lionne, la reine, la fondatrice, le calice, la chaîne. Nous sommes les louves, les mères, les patronnes, les baronnes, la chère. Le tapis rouge, les reines, les impératrices, les doyennes. Nous sommes les louves, les mères, les patronnes, les baronnes, la chère. Nous sommes les lionnes, les reines, les fondatrices, le calice, les chiennes.
Thank you.